Troisième épisode de votre talk 100% foot, match après match. C'est votre rendez-vous du dimanche soir après la Super League où on parle de l'actu du ballon rond. Ce soir, on le fait avec Quentin Maceras, défenseur du Servette FC. Bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Ça y est, elle est là, enfin, cette victoire qui va lancer la saison du Servette FC.
Enfin, c'était très attendu, mais enfin, finalement, le travail paye.
Ouais, avec une victoire hein, hier soir obtenue sur le score de 2-1 grâce à un but magnifique de Lambourg. Quentin, tu as passé 3 ans en Hongrie. Avant ces 3 ans, on le sait, tu as joué à IB et à Sion où tu as été formé. On imagine que les DM ont explosé, les WhatsApp ont explosé, tes oreilles ont sifflé, peut-être même saigné quand tu as signé à Servette.
Effectivement, j'ai fait beaucoup de mécontents, mais après, c'est des choix de carrière, c'est comme ça.
Ouais, les choix de carrière, les choix des joueurs pro, on en discute dans un petit moment. Un défenseur à ma gauche, un défenseur à la table aussi, ou un ancien défenseur qui est devenu consultant, Jérémy Manière. Je vous donne juste le programme de ce dimanche 9 août 2026. Pour commencer, on reviendra sur la victoire du FC Sion face au FC Vaduz. Une victoire de la part des hommes de Didier Tolo. Dans le temps additionnel, grâce à un but de Surdé. On va aussi revenir sur les matchs de Servette et de Lausanne qui recevaient respectivement Getse et IB samedi. Soirée plutôt réussie pour les deux clubs romands. On reviendra aussi sur le parcours de Quentin qui vient aussi nous raconter son expérience en Hongrie. Et puis n'oubliez pas, votre rubrique, le 12e homme, les 5 dernières minutes sont entièrement pour vous. Vos questions, on parle de n'importe quoi, on peut parler de coiffure, surtout avec moi, on peut parler d'immobilier, on peut parler de cuisine, tout ce que vous voulez. On passe donc 60 minutes avec vous, avec Quentin et avec Jérém. Salut mon Jay.
Salut Dany.
Premier match après match pour toi cette saison.
Exact, premier d'une longue série j'espère.
Oui, pareil, et puis première tout court pour toi Quentin. Sois le bienvenu, on serait ravis de passer 7 heures.
Merci
en ta compagnie. On se lance tout de suite dans le débriefing de la victoire du FC Sion contre Vaduz. C'était ce dimanche à 16h30 à Tourbillon. On se déplace en Valais pour écouter les analyses au terme de cette rencontre.
Fin de match épique ici à Tourbillon. Nouma, on va essayer de débriefer tout ça en 2 minutes. Ça n'a pas été un dimanche de tout repos.
Non, clairement pas. On n'est pas encore redescendu, je pense, des émotions. Là, c'était assez fou, mais c'est vrai que tout au long du match, on a quand même senti qu'on avait les moyens de passer, de gagner, parce qu'on se crée quand même des occasions. On rate un peu notre début de match, on prend un but après 4 minutes, mais après on voit qu'on revient au score, on doit marquer le 2-1, même le 3-1, je pense, parce qu'on a eu vraiment un moment fort. Et malheureusement, on prend ce but qui nous met un peu dans le dur. Mais même voilà, en deuxième mi-temps, je pense qu'on s'est accroché. C'était pas facile. On a fait vraiment les efforts et on est récompensé à la dernière minute. Donc ça fait du bien.
Très souvent dans le commentaire, Nicolas Menec et Claude Gross disaient si on a de la peine à se rapprocher, il y avait énormément d'espace entre les lignes. Du coup, on fait plus d'efforts, on perd aussi plus de ballons.
Bien sûr. Après, il y a le contexte du match, il y a la chaleur, il y a le fait qu'on joue tous les 3 jours. C'est pas des excuses, mais c'est des pistes d'explication parce que forcément, quand on enchaîne les matchs, on laisse des forces et en plus, on vit des scénarios quand on est mené 2 fois au score alors qu'on fait pas un mauvais match, c'est pas facile. Donc voilà, il a fallu s'accrocher. Je pense que Vaduz, c'est un peu dans les mêmes situations que nous. Ils enchaînent un peu les matchs, donc. Au final, il y avait un match avec beaucoup d'espace, un peu une attaque-défense par moment. Donc des fois, c'est encore plus difficile parce que voilà, si tu finis pas tes actions, tu pars l'équipe adverse par rencontre et tu dois faire 60 mètres de sprint pour récupérer le ballon. Donc c'est éprouvant, mais voilà, aujourd'hui, on est vraiment content de la victoire. C'était important de s'imposer.
Tourbillon reste imprenable, du caractère une nouvelle fois. Un banc qui se révèle décisif, c'est finalement les points qu'on va retenir, non ?
Bien sûr, c'est plus une surprise. Je pense qu'on a un effectif qui est de qualité. On a vraiment des joueurs qui sont capables de faire la différence, que ce soit notre 11 de base ou les joueurs qui sortent, qui viennent du banc. Donc aujourd'hui, c'est une victoire d'équipe. On savait qu'il fallait passer par là. C'est un peu notre ADN, je pense, parce qu'on a des joueurs de qualité, bien sûr, mais on a un collectif qui est vraiment qui travaille ensemble et qui fait les choses bien. Donc ça aide. Et aujourd'hui, on l'a vu encore. On a les 3 points grâce à notre banc.
6 matchs en 18 jours, Nouma, vous dormez bien, non, ces temps ?
Ouais, je dors bien. C'est vrai que c'est éprouvant, mais non, c'est comme ça. Ça fait partie du job. On l'a mérité parce qu'on a bien travaillé la saison passée. Et on veut que ça continue jusqu'à Noël. Ne pas s'entraîner et seulement jouer, c'est bien aussi. Donc voilà, on va essayer de tout faire pour que ça continue.
Et on prend rendez-vous, prochaine sortie, jeudi, face à Noah Erevan, ici au stade de Tourbillon. Venez nombreux.
Merci Alain, on passe le bonjour aux petits juniors Nouma Lavanchi hein, qui sont là dans les alentours de l'interview. Elle est fraîche cette interview, encore un retour. On a vu au match aller contre Erevan, si on a réussi à arracher nul. Là c'est carrément la victoire, c'est un groupe qui est sain.
Ouais, on a beaucoup parlé de ce groupe, de ce collectif, du fait que c'est des mecs qui s'apprécient et puis que le groupe vit bien. Souvent cette expression elle est galvaudée, mais là pour moi on a l'illustration même que cette victoire, elle est obtenue parce que le groupe vit bien, parce qu'il y a un collectif fort, parce que fondamentalement, il y a tous les éléments qui sont contraires aujourd'hui. Il y a un long déplacement d'Arménie durant la semaine. Il y a le fait qu'ils ont joué comme Vaduz il n'y a pas longtemps. Ils sont menés deux fois et malgré tout, bah, ça fait la différence sur la fin, avec des entrants. Et je pense que s'il n'y a pas un groupe aussi uni, aussi soudé, qui veut atteindre les mêmes objectifs, bah, ça se finit à 2-2 parce que le FC Sion se serait satisfait d'un match nul dans le contexte qu'il est actuellement.
Et c'est marrant, en regardant le match, on se disait ils vont passer devant. On sentait que ça pouvait finir sur une victoire 3-2 et ça arrive peut-être presque seulement quand on est une bande de potes puis qu'on joue les uns pour les autres.
Ouais, effectivement, et je pense que dans le football moderne, de plus en plus, c'est les collectifs qui gagnent les championnats ou bien les matchs. Les individualités vont te faire gagner peut-être quelques points durant la saison, mais au final, par exemple, ce qui s'est passé à Paris, au PSG, où ils ont mis les stars dehors, ils sont vraiment concentrés sur un collectif. C'est ça, dans le football moderne, qui va vraiment te faire gagner des matchs ou voir des championnats.
Mmh. On peut être confiant pour le match retour de jeudi contre Erevan ?
Ouais, je pense qu'ils ont su faire d'Oran. Ils ont montré une grosse force de caractère. Et je pense qu'ils vont passer.
Il y a des questions sur le chat YouTube. On nous propose de parler de la stratégie sportive du Stade Lyonnais. Promis, on le fera à un moment. Et puis, Botelli se rapproche de la Nati. Question de Rocksnake68. On s'emballe peut-être un peu ou tu l'imagines possible?
Se rapprocher, tout dépend ce qu'on entend par rapprocher. Mais je ne trouve pas illusoire de penser que Botelli, d'ici, peut-être pas pour le rassemblement de septembre, mais s'il fait une bonne saison avec Sion, que Sion accroche une Coupe d'Europe, qu'il continue d'enchaîner les réalisations, sachant que ce n'est pas un poste où on est vraiment pourvu en Suisse, il y a un monde où il est convoqué durant la saison 26-27. Alors peut-être pas tout de suite en septembre, pourquoi pas durant les prochains rassemblements pour faire des essais, parce que c'est entre guillemets que de la Nations League bientôt, donc
ouais.
Pourquoi pas.
C'est vrai, c'est pas faux. Une question qui me revient souvent, alors on parle tout le temps de cette continuité, qui a maintenant, c'est un peu un refrain qu'on entend presque tous les week-ends, y compris chez nous, la continuité. Bon, le coach est resté, le staff est resté, les joueurs sont restés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits ajouts qui ont été faits autour de cette équipe-là. Et c'est ça que je trouve assez fort, assez extraordinaire. Et toi ?
Ouais, c'était très, très bien fait. Je pense que ça s'inspire aussi des équipes qui tournent en Europe. À l'époque où Manchester City était très, très fort, il y avait des petites retouches par-ci, par-là, mais l'ossature restait toujours la même. Alors là, on ne parle que de Super League, sans faire offense au FC Sion, mais ils se basent année après année sur ce qui fait la force de ce FC Sion-là, avec une ossature solide, avec des joueurs expérimentés, des jeunes joueurs aussi comme Botelli ou comme Surdé qui ont été rapatriés. Et globalement, il y a un bon mix entre expérience et puis jeunes joueurs, et il y a une profondeur de banc qui fait que vraiment là, dans la planification de l'effectif, encore une fois, Barthes, Christian Constantin, etc., ont fait du très bon boulot.
Quentin, je t'embête un petit peu, mais ce mot stabilité, cette stabilité-là, on ne peut pas dire qu'elle était forcément là au moment où toi, tu étais assis. En tout cas, pas cette stabilité qu'on voit aujourd'hui.
Oui, effectivement, la politique elle a complètement changé. Quand j'y étais, j'ai connu une dizaine de coachs durant mes 4 années au club, de nombreux joueurs qui venaient de l'étranger et qui ne connaissaient pas forcément le championnat, qui pensaient que venir dans le championnat de Suisse, c'était facile en ayant joué ailleurs. Mais le championnat de Suisse, c'est compliqué à y jouer. Et je pense qu'ils ont appris leurs erreurs. Barthes, il fait du très bon travail sur ces derniers mercato. Il prend des bons joueurs et aussi des bonnes personnes qui s'intègrent bien dans le vestiaire. Chaque fois qu'il a pris par exemple un Roudani, un Rachopi, des joueurs avec qui j'ai joué, je me suis dit « Ah, c'est des choix très intelligents parce que c'est des bons joueurs et c'est des bonnes personnalités de vestiaire. » C'est-à-dire qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas, ils ne vont pas forcément se mettre la pagaille. Et c'est des choses qui sont comme importantes parce qu'au final, tu as 11 joueurs sur le terrain, mais tu as peut-être 25 à 30 joueurs dans le contingent. Donc, il faut trouver cet équilibre entre les personnalités et ils font du bon travail.
Qu'est-ce qu'il représente ce club du FC Sion pour toi ?
Ben, j'ai une gratitude et énormément de, de reconnaissance pour ce qu'ils ont fait pour moi. Je viens de cette région, j'ai été formé, j'ai commencé en jeune nation, c'est où j'ai connu mes premiers matchs en professionnel. J'ai joué 4 saisons et j'ai beaucoup d'affection pour la famille Constantin. Encore la veille de mon transfert à Servette, j'ai eu Bart au téléphone qui m'a félicité pour mon transfert en me disant que c'était un bon choix. Mais j'ai beaucoup d'affection pour la famille Constantin qui... Ils peuvent être critiqués des fois dans leur façon de faire, mais au final, ils aiment le club et je pense que c'est le plus important.
Ouais, c'est des très belles personnes. On a une photo de toi, tout jeune, à Sion. T'es tout à gauche, avec les yeux fermés. Et le jeu pour Jérémy, qui n'est pas au courant, c'est de trouver qui sont les trois autres sur la photo.
Alors, il y a Vincent Sierrault, deuxième depuis la gauche. Il y a Gaëtan Carlen, tout à droite. Je me trompe là ou pas?
On est bon, ouais.
Et puis, il manque encore le deuxième depuis la droite. Oh, un petit indice.
On l'aide. On l'appelait le guerrier.
Le guerrier?
Ouais, il est chauve aujourd'hui.
Ah oui, je sais. Défenseur central qui est parti en Finlande, Ariane. D'origine...
Ariane Kabachi.
Kosova. Ariane Kabachi, exactement.
Ariane Kabachi.
Ah, plus dur à reconnaître quand même. Hein.
Alors, c'est pas du tout lui.
C'est Greg Carlen, c'est pas Gaëtan, exactement. C'est le petit frère.
C'est Greg, Greg Carlen. Et puis Ariane Kabachi. En fait, ce gars sur la photo, c'est un de tes anciens coéquipiers, mais qui n'a pas fait carrière.
Exact. Ah, donc, sur 4, il y en a 3 qui ont fini professionnel. Ah, ouais. J'ai eu la chance de jouer avec Greg à Sion, avec Vincent à Sion et à IB. Et donc, c'est fou d'avoir des amis d'enfance avec qui j'ai eu la chance de réaliser un rêve de devenir footballeur professionnel.
Ah mince, tu sais pourquoi j'ai dit Gaëtan? Parce que Gaëtan est blanc et puis Greg est un petit peu plus foncé. Et là,
mais tout le monde les confond constamment, Gaëtan.
Là, il était bien clair, là, Greg. Okay.
Bon, tu sais, même nous, quand on allait les interviews à la fin des matchs, on arrivait une fois sur deux à ce.
J'aurais dû le savoir, génération 95 du FC Sion.
Voilà. C'est vrai. Bon, Quentin, tu as des origines espagnoles en Galice, je crois. Il y a Maxime Zuffray qui te demande à quand un transfert au Deport? Ce serait un rêve pour toi, ça?
Bah, évidemment, je pense que toute la famille serait vraiment contente, mais le Deport, c'est vraiment mon club de cœur. Il y a toute ma famille qui va au stade chaque semaine. J'ai encore beaucoup de cousins et d'oncles à la Corogne et ça a toujours été mon rêve. Après, maintenant, je me fais un peu plus vieux, donc les chances s'amoindrissent. Hein. Et là, ils sont de retour en Liga, donc c'est un peu compliqué, mais dans tous les cas, je serai toujours socio du Deportivo.
Ouais, le Deportivo de retour en Liga pour ton plus grand bonheur, le bonheur de Carlos Varela, exact. Qui l'a répété à plusieurs reprises et puis plein d'autres personnes ensuite. Alors, origine gaïtienne, mais ton deuxième prénom, c'est Mustapha.
Mustapha.
Ça te dit quelque chose? Est-ce qu'on t'a déjà appelé Mustapha dans ta vie, sur un terrain?
Mustapha. J'ai pas de souvenir.
T'as pas ce souvenir-là?
C'est possible, mais je sais pas.
T'as pas un oncle qui a été entraîneur de foot à Vétro?
Ah oui, exact, oui. Exact.
Ça te met pas sur une piste?
J'ai mon oncle qui était entraîneur à Vétro, je sais.
Parce qu'on m'a dit que quand t'étais plus jeune, t'allais faire des tournois internationaux sous le pseudonyme de Mustapha. Et un Nicolas Ferretti me dit sur Insta que ton oncle était son entraîneur et en junior D à Vétro quand il y avait des tournois à l'étranger, t'allais jouer avec eux sous une fausse licence.
C'est vrai, j'avais fait un tournoi une fois avec Sion et le lendemain j'étais faire un tournoi avec le FC Vétro. Je pouvais pas normalement faire ce tournoi sous une autre licence, donc ils m'ont donné un faux nom pour que je puisse réaliser ce tournoi. Mais j'avais oublié cette anecdote, c'est pas mal.
Nous on la trouve assez formidable, c'est pour ça qu'on avait envie de la raconter. Tu as signé à Servette le mois dernier, tu viens d'emménager avec toute ta famille. Comment tu te sens à Genève et au club?
Très bien, franchement j'ai été vraiment bien accueilli par le vestiaire, par le staff, même par les Genevois. J'ai reçu énormément de messages positifs. En tant que Valaisan, je sais que il y a une certaine rivalité entre ces deux clubs. Mais franchement, c'est vraiment que du positif pour l'instant. Après, ça va surtout dépendre des résultats dans le football. Quand t'es bon, tout va bien. Quand t'es pas bon, ça va pas. Mais j'étais vraiment très bien accueilli par le vestiaire. Donc, je suis vraiment reconnaissant. Et c'est toujours plus facile d'être performant sur le terrain quand t'es bien accueilli et qu'on sent qu'on compte sur toi et que t'as une place dans le vestiaire.
Moi, j'avais vraiment envie que Quentin vienne pour qu'on aborde cette thématique de... Voilà, les supporters, eux, sont des passionnés. Eux, ont leur travail, c'est des professionnels quelque part. Et puis le week-end, il y a le foot où il y a leur passion. Mais le foot, pour toi, quand tu jouais, pour toi, Quentin, c'est un travail. Alors, c'est un travail passion-travail, peut-être un peu comme moi dans mon domaine, mais... Tu dois faire des choix. Et c'est un choix que tu as fait, que tu as su.
Ouais, bien évidemment. Moi, les choix, je les fais pour moi et pour ma famille. Surtout pour ma famille, ensuite pour moi. Et ensuite, ce qui est sportivement le plus intéressant pour moi. Donc, c'est clair, les gens vont réagir un peu avec passion. Mais moi, c'est mon travail. Donc, il faut vraiment que je fasse des bons choix pour pouvoir essayer de jouer le plus longtemps. et faire des choix sportifs qui sont cohérents par rapport à mes attentes.
Jay ?
Non, rien à ajouter, il a tout dit. Et je pense aussi qu'il faut, aussi distinguer évidemment l'homme du footballeur dans la critique aussi qu'on émet tout le temps. Et se rendre compte aussi que sans aller dans des considérations, sans te demander quelles offres tu as eues, on ne peut pas toujours signer où on veut tout le temps. Alors, je ne dis pas qu'il ne voulait pas signer à Servette, mais je prends le cas, si j'étais parti à l'étranger comme lui, et puis que, pareil, si j'avais signé à Sion ou à Servette, peut-être que Lausanne ne me voulait pas non plus. Donc, je ne sais pas. Il ne faut pas non plus croire que... il y a 40 000 offres sur la table tous les étés ou tous les hivers et qu'on peut aller où on veut. Donc,
ouais, voilà. Et puis parfois, on ne connaît même pas justement les circonstances de ces transferts. Plusieurs questions donc, à ce sujet. Évidemment, Nicolas te demande si c'est dur de jouer pour Servette alors que tu es valaisan.
Non, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait. Et en signant à Genève, il y a beaucoup de Genevois, ils m'ont dit « D'habitude, les Valaisans qui viennent à Genève, ça se passe bien. Donc, on espère que pour toi, ça va bien se passer. Mais non, pas du tout. C'est des choix et en plus... peu de personnes le savent, mais j'avais failli signer à Servette il y a 3 ans. On était en contact. Finalement, ça ne s'était pas fait. J'étais parti en Hongrie. Donc, ça faisait un moment qu'on se tournait un peu autour. Après, j'ai été performant en Hongrie. J'ai pu enchaîner les matchs. Et le directeur sportif John Williams m'a contacté pour pouvoir venir au club, apporter mon expérience et pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs.
En fait, on peut dire que tu as noyé le poisson 3 ans en Hongrie pour aller un petit peu plus en douceur après.
Ouais, exact.
Je t'embête, évidemment.
Comment tu imagines ton retour à Tourbillon ? Beaucoup de fans valaisans te posent cette question.
Ouais, on m'a déjà prévenu un peu sur les réseaux que ce serait un peu tendu pour moi, mais cette bonne guerre au final, que je me fasse siffler ou pas, pour moi, ça ne va pas m'empêcher de dormir. J'ai toujours beaucoup d'amour pour les gens, il y a ma famille qui sera au stade, donc j'espère qu'ils ne seront pas trop virulents, mais c'est cette bonne guerre, donc je peux comprendre que les gens ne soient pas contents, mais après, c'est mon travail.
C'est ton métier. Beaucoup de fans du Lausanne Sport qui sont sur le chat, on parlera du LS évidemment. D'autres personnes souhaitent savoir si tu as eu des contacts avec le FC Sion, est-ce qu'il y aurait eu la possibilité de retourner au FC Sion, est-ce que tu aurais eu envie de retourner au FC Sion à un moment donné aussi, de finir ta carrière là-bas?
J'ai toujours été en contact avec Barthes de près ou de loin. Il y a eu des touches ces derniers mercato, mais sur ce mercato, il n'y a rien eu. Ils sont bien dotés à la place de latéral où il y a Lavanchy qui fait du bon travail et ensuite derrière ils ont pris un jeune Kessler, si je ne me trompe pas, qui était à Rau, donc il n'y avait pas forcément de nécessité à ce poste. Donc voilà.
Gasp te propose de finir ta carrière au FC USR-11.
USR-1, ouais.
Ouais. Ah, ça se dit comme ça ?
Ouais, USR-1, c'est...
Alors voilà,
c'est où j'ai commencé le foot. C'est moi, j'ai grandi à V, dans le Val d'Airain. Ouais. Et c'est où j'ai commencé le foot. Donc, je pense que j'irai finir en vétéran au FC USR-1.
Attention, ça met des coups. Ça met des coups en vétéran.
Les matchs, c'est dimanche matin à 10h.
Ouais, ça sent déjà la saucisse. Ça, tu connais pas, tu connais plus, mais ça sent déjà la saucisse à 10h du matin, hein, sur certaines...
Bah, moi, je connais pas ça non plus, mais il y avait plus 30 du LS qui me font de l'œil tout le temps. Et non, pour l'instant, non, pour l'instant.
Désolé pour la prononciation. Je ferai mieux la prochaine fois. On te demande qui était ton coéquipier préféré en Suisse, avec un gros attention à ta réponse. Je vais un peu t'aider. La question vient d'une Coralie Fickenscher.
Ah ben, évidemment. comme je disais, dans le foot, c'est des fois difficile à se faire des vraies amitiés parce que c'est un milieu très compétitif. Il y a beaucoup les effectifs qui changent chaque année. J'ai la chance d'avoir Greg et Vincent qui sont des amis d'enfance, Siro et Carlen. Et la vraie amitié que le football m'a donnée, c'est Kevin Fickenscher avec qui... j'entretiens une très belle relation, c'est un vrai ami, il fait partie de la famille, que ce soit ses enfants, sa femme. Donc c'est clair que Kevin, on s'appelle chaque semaine.
Génial, il fait partie de sa famille et de la nôtre, puisqu'il est consultant.
Ouais, famille match après match.
Oh là 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 là, la classe. On lui passe le bonjour. Je t'ai proposé de venir avec quelques photos de ton téléphone. On a vu la première, je te montre la deuxième. Il y a celle où tu joues contre Servette avec Sion. Un petit accrochage avec Steve Rouillet. Pourquoi cette photo ?
Ouais, c'était toujours très tendu, les derbys entre Sion et Servette. Maintenant, je vais vivre le derby de l'autre côté, donc je vais voir ce que ça fait. Mais c'est clair, sur le terrain, je peux être aussi un peu agaçant et un peu virulent. Et ça me fait marrer, parce que il y a Steve qui me prend par le col. Et au final, je me chauffais souvent avec Rouillet ou bien avec Frick. On a changé pas mal de noms d'oiseaux. Et au final, c'est presque les joueurs qui m'ont le mieux accueilli le premier jour où je suis arrivé à Genève. Et on en a rigolé avec Frick et également avec Steve. Maintenant, on est à côté en défense. Il m'a très bien accueilli. Il m'a aidé dès les premiers jours. Et c'est là, des fois, dans le football, tu as des émotions un peu sur le terrain. Mais après, en dehors, c'est complètement différent. Quoi.
Et ça, j'ai envie de le dire aussi. les supporters, des fois, ils détestent un mec de l'équipe adverse ou ils détestent l'équipe adverse. Et les mecs, en fait, ils sont potes, quoi.
Mais bien sûr. Mais bien, c'est souvent le cas. Hein. De toute façon, il faut toujours, comme je disais avant, il faut distinguer l'homme du footballeur. Sur le terrain, il y a des émotions, il y a la volonté de gagner, il y a le fait d'être compétiteur. Et puis, des fois, c'est difficile. En plus, avec la pression en fait, du match, le public aussi, quand on joue dans des stades de 10, 15 ou 20 000 personnes, bah, ça rajoute un petit peu de sel à tout ça. Et puis, ça fait un cocktail parfois qui est explosif. Mais il faut toujours distinguer. Ce n'est pas parce qu'il y a des insultes qui fusent sur le terrain qu'en dehors, c'est une mauvaise personne ou... C'est pas toujours le cas.
Ouais, en tout cas, on se réjouit de ce premier derby du Rhône. Tiens, puisqu'on parle de transfert, on fait un petit tour de l'actu des transferts. On vous a sorti une liste de nos transferts préférés. Je vais l'appeler comme ça, transfert de cet été, transfert 2026. Il y a par exemple Diomandé qui est passé de Leipzig au Real. Il devient le joueur le plus cher de l'histoire des Merengues. On parle de 140 millions d'euros. Morgan Rodgers qui quitte Aston Villa pour Chelsea pour 138 millions. Il libère une place pour Johan Mandzambi qui devient le joueur suisse le plus cher de l'histoire devant Dan Endoy, qui voit son ancien coéquipier Nottingham Elliot Anderson passer à Manchester City pour 135 millions d'euros. Dang. Sandro Tonali de Newcastle aux Spurs pour 108 millions. Anthony Gordon de Newcastle au Barça. Gonçalo Ramos pourra peut-être enfin être titulaire au Milan. Palestra, Lacroix font partie des 277 joueurs arrivés à Chelsea avec Xabi Alonso sur le banc. Ouais. Kolomwani de retour à la Juve qui a aussi pris Alaï Begovic en provenance du Bayer Leverkusen. Olise et Diaz sont toujours au Bayern malgré les appels du Real et de l'Arabie Saoudite. Et puis Rodri pourrait finalement aller au Barça et pas au Real. Quel été, franchement, de quel transfert as-tu envie de parler, mon Jay?
Tous m'intéressent. Je suis curieux de voir un petit peu ce que va faire Morgan Rodgers à Chelsea, sachant que c'est quand même un numéro 10 de formation et puis que c'est le poste normalement de Cole Palmer. Il y a forcément un des deux qui sera décalé, Palmer à droite ou Rodgers à gauche. Les prix anglais, Elliot Anderson pour 135 millions, je crois, c'est complètement fou. Alors si on suit la Première Ligue, on sait que c'est un super joueur. Il a fait une très très belle Coupe du Monde aussi aux côtés de Declan Rice. Par contre, les tarifs anglo-anglais, c'est complètement fou. Yann Diomandé, forcément, ça a défrayé la chronique récemment. Même pas 60 matchs pro et ça part pour, combien t'as dit, 120
millions? Ah ouais, 140.
140 ouais. millions, de la folie, sachant que... Il joue un petit peu parfois à droite, mais ça reste un ailier gauche aussi. Il l'a même lui-même dit, hein, il préfère jouer à gauche. Un poste où il y a déjà Vini, où il y a
quelques joueurs déjà,
Mbappé. Ouais. Rodrigo, qui est aussi un droitier, qui de base aimerait jouer à gauche. Il n'y a pas forcément d'ailier faux pied pour l'aile droite à Madrid. Donc je me demande un petit peu quelle alchimie va pouvoir être trouvée par José Mourinho. Mais plein de transferts alléchants en tout cas.
Tu suis le foot espagnol, Quentin, j'imagine.
Évidemment.
Quel transfert te paraît le plus chouette? Moi, j'aime bien Gordon au Barça parce que je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. C'est vraiment un transfert qui m'intéresse, ouais. Je me réjouis vraiment de voir ce qu'il va faire. Rodri, tu dis peut-être Paris, ouais. Finalement Real, et puis non, ce sera finalement le Barça. Je ne sais pas s'il y en a un des
deux. Je suis curieux de voir ça n'a pas encore été officialisé, mais je serais curieux et heureux de voir Rodri au Barça. Mais j'aime bien aussi le Barça. Et curieux de voir comment ils vont mettre en place ce milieu de terrain avec un Frenkie de Jong, Rodri, et comment ils vont mettre en place, s'ils vont rester dans ce 4-3-3 ou bien changer un peu. Donc je serais curieux de voir Rodri en chef d'orchestre en Catalogne.
Il y a aussi la Fiorentina qui est en train de faire un mercato de folie avec les arrivées de Maston Tuono du Real, Dragosin des Spurs, Simon Somm qui est parti de
Vlaï.
Exactement.
Il voit rien.
Exactement.
Ouais.
Là, ils essayent de prendre Hendrik. C'est aussi en prêt. Djibril Sow passe de Séville au Genoa. Kevin Babou toujours sans club. Brelem Bolo a été associé au Milan et au Napoli en Italie.
Atlanta.
Mais c'est probablement du bazar pour moi en tout cas. T'as entendu aussi
Atlanta United dans MLS.
Atlanta
aussi.
United, absolument. Deux anciennes connaissances. Rebels passe de Paris à Lecce. Et puis Kevin Carlos, écarté du groupe à Nice, pourrait rebondir à Cagliari.
Ouais, je pense que c'est. Moi, c'est Kevin Carlos par son profil. Je le vois plus en Italie qu'en Ligue 1, qui est un championnat ultra physique où il se frotte aussi à des Golgothes. Je dis pas que le championnat italien est un championnat qui est pas physique, mais qui est peut-être à un rythme un peu plus lent que le championnat français où il y a beaucoup de gros gabarits aussi. Donc, à lui maintenant de confirmer ce qu'on a entrevu brièvement en Suisse, parce que depuis son départ du FC Bâle à Nice, on peine à le retrouver quand même, ce Kevin Carlos.
Et puis des rumeurs selon lesquelles Karim Sow aussi aurait en tout cas la possibilité de partir. Ça parle, l'Italie, c'est le championnat qui lui correspondrait peut-être le mieux.
Après, c'est un profil intéressant, un joueur longiligne. Très physique, donc je pense que le championnat d'Italie pour un défenseur, c'est très formateur. Je pense que tu fais un ou deux ans en Italie, tu vas vraiment prendre la rigueur italienne pour défendre, la tactique. Donc je pense que ça peut être très très formateur pour le suite de la carrière.
Ouais. Ouais, c'est un peu une étape. C'est devenu une étape intermédiaire, hein, l'Italie. Puis c'est ce qui te fait après, tout à coup, te retrouver en, bah, comme Dan Endoy,
clairement.
Qui fait, alors Lausanne, Nice, Bâle, retour en Suisse, et puis Bologne qui lui permet d'aller à Nottingham.
Finalement. Clairement, avec des très très bons coachs, il y a de quoi vraiment se former en tant que défenseur. Alors peut-être pas se former, mais continuer à apprendre le métier dans un championnat qui est quand même nettement plus fort que notre Super League. Je sais que Karim Sow était associé à des clubs de. À des clubs de première ligue, mais des clubs de bas de classement, des promus. Ouais. Et ça serait peut-être la fausse bonne idée. Alors, je ne suis personne pour le conseiller. Il y a des autres considérations qui rentrent en ligne de compte.
Non, mais quand
c'est peut-être un petit peu tôt.
Ouais.
Et c'est...
Quand tu es défenseur, tu vas chez un néo-promu, tu sais que tu vas.
Tu vas défendre, tu vas galérer toute la saison et tu vas espérer peut-être te sauver, sachant que généralement, les promus en première ligue, ça fait l'ascenseur.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Quentin, toi, tu reviens de Hongrie, où tu as joué 3 ans à la Puskás Academy en première division. On a aussi une image de toi sur Internet. Quel est le niveau de cette première division par rapport à la Super League?
Je pense que le niveau est quand même inférieur à la Super League. Après, c'est un foot différent. C'est un foot beaucoup moins ouvert, beaucoup plus physique, basé sur le. Il y a beaucoup de grands joueurs sur les coups de pied arrêtés, corners. C'est vraiment un championnat très physique. La Suisse est beaucoup plus ouvert avec des jeunes joueurs. C'est beaucoup plus dynamique. Mais après, on voit que les équipes comme Ferencváros font vraiment bonne figure en Europe. Où c'est vraiment un grand club. Là, dans l'image, c'était le play-off qu'on a joué à la Fiorentina. On a perdu le play-off penalty, on a failli passer en Conference League, donc ça montre aussi que c'était assez compétitif comme championnat.
Mm-hmm. Et ton club, on pourrait le comparer à quel club de Super League pour se faire une idée?
D'un point de vue du football,
c'est un club, pardon.
Ouais, bien sûr. Je pense d'un point de vue football, c'est plus comme le FC Thun, où c'était un football assez direct et physique. Et ensuite, je pense que dans le championnat de Super League, on ferait bonne figure, peut-être entre la 4e et la 6e place. Parce qu'on était quand même le deuxième club du pays. Mais après, c'est clair que le niveau général, il y avait quand même une grande différence entre le haut du classement et le bas du classement. Ou en Super League, c'est quand même c'est assez proche. Homogène. C'est plus homogène. Et les matchs même, tu vas jouer à Vaduz. Il faut gagner les matchs. On a vu ça aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut vraiment se battre chaque match pour pouvoir aller chercher les points.
Dans ton palmarès, il y a 2 titres de champion suisse et une coupe suisse remportée avec IBE. On t'a ressorti quelques images, quelques buts que tu as marqués dans ta carrière. Ce passage de Sion à IBE, est-ce que c'est le transfert de ta carrière?
Ouais, je pense. À Sion, j'ai connu des années où on se battait pour la relégation. Et ensuite, j'ai été à IBE où j'ai pu gagner 3 titres. J'ai pu jouer la Champions League, j'ai pu jouer l'Europa League. Donc, c'est des rêves de gosse, des choses que je n'avais pas forcément imaginées. Et puis, j'ai fait deux bonnes premières saisons. J'ai fait une 60aine de matchs. La dernière saison, c'est un peu moins bien passé. C'est pour ça que je suis parti ailleurs pour redevenir un joueur important. Parce que je pense que dans le foot, le plus important, c'est chaque fois de jouer et de se sentir important. Mais c'est clair, je garde un magnifique souvenir de ce transfert et ces 3 années à Young Boys où j'ai pu connaître des choses magnifiques et j'ai aussi pu connaître la mentalité suisse-allemande qui est différente de la mentalité francophone où c'est un peu plus carré et je pense que ça fait aussi du bien des fois d'aller voir ailleurs.
Ouais, on a vu des vrais gestes d'attaquant, hein, par contre. Hein. Tu jouais numéro 9 à
IBE. C'est pas souvent.
Ah, là, c'était propre. Là. C'était
ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas des masses de buts, mais c'est toujours des buts assez intéressants.
J'aurais signé pour mettre des buts comme ça.
Alors, juste avant de passer à la publicité, vu que tu parlais d'IBE, c'est aussi une sorte de discussion qu'on a, hein, cette différence de mentalité entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. IBE accroché hein, contre le LS hier, mais qui reste quand même, pour moi, le favori au titre.
Oui, je crois que le match nul de hier, il ne remet rien en question, à mon sens. Hein. IBE, c'est la force tranquille. J'ai été vraiment rassuré par ce qu'ils ont fait durant l'été en termes de mouvement sur le marché. J'ai été vraiment impressionné par certaines de leurs prestations. Peut-être pas sur 90 minutes, mais sur 60 minutes contre Sion en ouverture de saison. J'ai vraiment trouvé vraiment intéressant, rouleau compresseur, athlétiquement au-dessus de la mêlée.
À Thun aussi.
À Thun, bon, il n'y a pas eu match à Thun, il y avait 2 ligues d'écart. Le match de hier, finalement, c'est même pas un accident de passage. Ils se sont tombés contre un LS qui a fait preuve d'abnégation aussi. Je pense que voilà, ils auraient tout de suite signé pour faire 3 matchs 7 et je suis curieux de voir ce qui va suivre parce que je me demande qui va pouvoir, peut-être si ce n'est Lugano, en tout cas durant le premier quart de la saison, suivre le train.
Quentin Maceras est venu avec son maillot du Servette FC dédicacé. Vous pouvez le gagner à partir de lundi matin en répondant à une question sur nos réseaux sociaux comme chaque semaine. Merci beaucoup Quentin d'être venu avec ce cadeau pour tous nos followers. C'est la deuxième partie de Match après Match. On va revenir sur la rencontre entre Servette et Guetsé. On avait l'impression que Guetsé est un adversaire idéal pour vraiment lancer cette saison. Victoire 2-1. La saison est lancée, c'est une victoire qui vous fait du bien.
Ouais, effectivement, je pense que quand tu t'appelles Servette et que tu fais deux matchs zéro point, c'est clairement pas assez. Après, si tu regardes que les points, ça peut être alarmant. Mais au final, si tu regardes le contenu des matchs, c'était quand même très positif. Contre Bâle, c'est un match, tu peux le jouer 100 fois, je pense que tu le gagnes 95 fois. Contre Zurich, on aurait pu passer l'épaule ou au moins un match nul. C'est-à-dire que je pense que niveau comptable, on aurait pu être facilement à 7 points. Dans le contenu, c'était bon, mais c'est clair que ça suffit pas de bien jouer et se créer des situations. Faut être tueur dans les deux surfaces. Et je pense que c'est ce qu'on a su faire hier. Et on sait que Guetsé, c'est pas non plus facile, car Peter, c'est un coach qui demande beaucoup d'intensité à ses équipes. Ils sont toujours en train de presser, donc c'est pas facile. Mais je pense que c'est une victoire méritée hier.
C'est un refrain qu'on a entendu assez souvent sur les deux analyses d'après-match, contre Bâle et contre Zurich. Fallait juste trouver le moyen de finaliser ces occasions.
Ouais, il y avait un petit peu le fantôme de la saison passée où Servette avait mal commencé, qui commençait à ressortir dans les médias aussi pour s'éviter une saison un petit peu, pas gâchée, mais mal entamée et puis qui les prétérite sur la suite de la saison. Là, c'est bien, ils ont stoppé l'hémorragie. Je rejoins Quentin, c'est une hémorragie qui est comptable. Hein. Enfin, ces deux premiers matchs perdus. Dans le contenu, effectivement, contre Bâle, Servette était la meilleure équipe. Il y a un geste mal maîtrisé de Mendes qui coûte un penalty. Sinon, Bâle, absolument inoffensif. Servette qui manquait de tranchants devant. Et finalement, le match contre Zurich à l'extérieur, il y a une grosse erreur de Gert Monas qui les prétérite aussi dans la suite de la rencontre. Il y avait deux, trois inquiétudes liées un petit peu à l'animation offensive avec trop peu de tranchants, trop peu d'efficacité aussi. Faut pas oublier que Junior Kadi n'est toujours pas là, Thomas Lopez n'est toujours pas là. Et finalement, bah voilà, il y a Emrah qui marque aussi.
Et Mathis Lambourde, quel but! Franchement, vous l'avez. Il doit vous payer quelque chose, vous lui avez demandé quelque chose pour un but aussi beau.
Très joli goal, une belle passe de Timothée Cogna. Le timing était parfait, puis ensuite il a envoyé une bombe. Donc Mathis, un très bon joueur. Très jeune joueur qui a un énorme potentiel et je pense qu'il va en mettre d'autres durant la saison.
Il n'y a pas une caisse pour des top buts comme ça ?
Il ne faut pas trop l'enflammer parce que sinon après il ne va plus en mettre. Pas trop l'enflammer, mais c'est clair que c'est un très joli goal.
Non, franchement, on a vu un très beau but des Lausannois, un très beau but des Valaisans aujourd'hui avec Roudani. Ouais. Ce but-là d'hier soir, il est fantastique.
Magnifique.
La passe, le but, la finition.
Tout ouais, c'est alors déjà la passe de Timothée Cogna, elle est dans le bon timing, elle est bien piquée. Et ces gestes-là, c'est super dur à réaliser parce qu'il ne voit pas le gardien, il ne voit pas le but, il doit s'identifier un petit peu dans l'espace comme ça. Et là, il la tape bien. C'est encore difficile de la taper bien coup du pied dans l'équilibre de la course. Et là, quand ça part comme ça, bah, c'est imparable pour un gardien. Donc, magnifique. Et ça va le lancer dans sa saison. On sait que le premier but pour une recrue offensive, c'est toujours très important pour libérer un petit peu psychologiquement aussi. Et je pense que ça va lui faire du bien.
Défensivement, sur le 1-0, hier, il se passe quoi exactement ? Comment Abrashi se retrouve tout seul comme ça ?
Ouais, je ne l'ai pas vraiment analysé encore la situation. Je pense qu'on va la revoir cette semaine, mais c'est clair que c'était un petit peu trop facile. On était un peu trop ouvert. Après, on sait qu'on aime bien le ballon à Servette. On aime bien être ouvert, être offensif avec les latéraux. Mais c'est clair que cet aspect où, quand on perd le ballon, on doit vraiment être prêt pour pas être trop découvert, parce que là, c'est clair, c'est un petit peu trop facile. Mais après, malheureusement, c'est quand tu joues et que tu essayes d'avoir la jury, des fois, tu vas perdre des ballons. Mais c'est clair qu'on va essayer de soigner et peaufiner ces petits détails pour les matchs qui viennent.
Un mot sur Mitja Stevanović, le GOAT, le roi du caviar, le héros sans cap. Les fans du Servette n'ont plus de mots pour définir leur idole. 350 matchs avec le Servette FC. Quentin, tu apprends à le connaître. Nous, on connaît son humilité. Toi, tu le connais comment ?
Ben, j'apprends aussi à le connaître et il est d'une humilité vraiment impressionnante. Par exemple, en deuxième mi-temps, je lui mets un ballon trop fort en retrait. Si je le mettais plus doucement, il aurait pu finir. À la fin du match, vers lui, je dis « Ah, désolé, Micha, je l'ai mis trop forte. Je sais pas pourquoi, il fallait que je la mette moins forte pour que tu puisses finir. » Il dit « Non, non, c'est de ma faute. C'est de ma faute, j'aurais dû la contrôler, mieux la contrôler, alors que je sais que c'est de ma faute. » Mais ça montre la classe du joueur qui a 36 ans, il est encore tous les jours à faire son gainage avant et après les entraînements, et ça montre qu'au final, la classe et l'humilité du joueur.
C'est un exemple pour beaucoup de jeunes servetiens, Mitja, et de pouvoir le côtoyer tous les jours, j'imagine que c'est assez inspirant.
Bah évidemment, parce que des fois, il y a des joueurs qui vont montrer l'exemple par la parole. C'est bien de parler, mais au final, je pense que le meilleur exemple, c'est de faire les choses. Et quand tu as un petit jeune qui va arriver dans le vestiaire et voir Mitja tous les matins en planche en train de faire son gainage, il va se dire, pourquoi moi, à 19 ans, je ne vais pas le faire. Donc je pense que c'est vraiment c'est un leader, pas dans la parole, mais dans l'exemple. Et je pense que c'est encore plus fort que la parole.
Ouais, et puis on sait qu'à Servette, il y a beaucoup de jeunes talents offensifs. Moi, je pense aux frères Richoyette qui sont partis en prêt en Challenge League. Thomas Lopez qui a explosé sur la deuxième partie de saison la saison passée. Et d'avoir une référence comme ça, qui joue aussi au poste offensif, qui a d'une humilité incroyable, bah, c'est une chance pour ces joueurs-là et une chance aussi pour le staff. C'est la possibilité de dire aux jeunes joueurs, regarde, Mitja, il court 11 km par match. C'est le premier à l'entraînement, je ne sais pas, mais c'est le premier à l'entraînement à faire justement ce gainage-là. Donc, pourquoi pas vous à 18 ans ? Donc, c'est très bien d'avoir justement des leaders sur lesquels on peut se reposer aussi dans l'exemplarité.
Alors on s'écoute quelques réactions au coup de sifflet final. Jocelyn Gourvennec et Mathis Lombourde ont répondu à Jérôme Crétin. On commence par le buteur, à qui on a demandé si Servette avait vraiment trouvé son efficacité offensive.
Pas totalement, parce qu'on peut en mettre beaucoup plus. Mais aujourd'hui, il en a fallu que deux. Peut-être la semaine prochaine, il nous en faudra 4, 5. Mais en tout cas, aujourd'hui, les deux, ils ont suffi et on est très heureux.
Un des deux, c'est le vôtre. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Comment ça se passe ?
Bah, franchement, j'ai regardé Timo. Il lève la tête. Il y a une connexion naturelle qui s'est faite. Il m'a mis un petit ballon plombé. J'ai le temps de la voir venir, la balle. Donc, j'ai su bien ajuster mon pied. Et après, c'est que de l'instinct. Je la prends à une touche et elle rentre parfaitement.
On a réussi à marquer des buts qu'on avait du mal à marquer, contre Bâle, contre Zurich. On a fait preuve d'un peu plus de spontanéité, un peu plus de justesse aussi, à l'image du deuxième but, le super ballon dans la course de le super ballon de Timo dans la course de Mathis. Et c'est ça qu'on veut, on doit être à l'image de ce but plus précis, on l'a été.
On est quand même obligé de revenir sur l'élément de la 59e minute, vous vous retrouvez à 11 contre 10. Et là, il y a quand même passablement de choses qui changent en votre faveur.
Oui, mais après, le haut niveau, c'est la maîtrise émotionnelle. Quand un joueur a déjà un carton et qu'il fait un tacle abominable comme il a fait, c'est rouge. Voilà, faut savoir se maîtriser. Ça fait partie du jeu, du haut niveau. Quand un adversaire se met à la faute, il se met à la faute. Et donc, il a fallu être patient. Et je pense qu'on l'a été. On a été récompensé logiquement, je trouve.
Tu apprends aussi à connaître Jocelyn Gourvennec depuis quelques semaines seulement. C'est quel genre de coach ?
C'est un coach très exigeant, mais qui est très bon dans l'analyse de l'adversaire et dans l'analyse du match. Il va nous donner quelques clés pour le match, nous dire c'est ça les points faibles de l'adversaire ou c'est là où on doit appuyer. Et c'est souvent la vérité du match. Donc là-dedans, il est très bon. Et ensuite, ouais, c'est un coach très exigeant qui en demande beaucoup, mais c'est une bonne chose.
Ouais, Jocelyn Gourvennec qui était passé nous voir et qui avait aussi transpiré un peu ce que dit Quentin. C'est quelqu'un qui est très dans l'analyse, qui connaît bien ses adversaires et qui a aussi une vie en dehors du foot. Un gars très culturel, il va au ciné, il lit des livres, un peu dans la philosophie aussi. Tout
alors
ça.
Je ne suis pas assez proche de Jocelyn Gourvennec pour le savoir.
Il était
mais
venu
par
nous
contre,
le dire lui-même.
Mais c'est vrai qu'en tout cas sur l'aspect sportif, footballistique, depuis son arrivée, même si les résultats ont été d'abord décevants, moi il m'a toujours fait bonne impression, je suis beaucoup la Ligue 1, tu me connais, et c'est un coach que j'appréciais déjà beaucoup en Ligue 1. Peu importe les résultats qu'il a eu dans ses différents clubs, mais déjà dans l'analyse, à l'interview, dans la communication, humainement, on sent que c'est quelqu'un de bien sur lequel les joueurs ont envie de se baser, envie d'écouter. Et j'espère pour lui et pour les fans genevois aussi que la mayonnaise va gentiment prendre pour continuer à engranger des points.
Allez, retour sur Lausanne IB 2-2 samedi soir à la Tuilière. Une première mi-temps triste ou nette et puis une deuxième période bien plus dynamique, bien plus sympa à suivre. 4 buts au total, une expulsion. Lausanne toujours invaincu et premier petit coup d'arrêt pour IB, on va dire.
Lausanne me surprend. J'ai été le premier à être assez sceptique pour l'instant du mercato effectué avec des arrivées qui ne m'ont pas fait lever de ma chaise, avec un effectif très léger, avec beaucoup de jeunes joueurs, c'est très bien, mais avec des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup de références et qui n'ont pas forcément non plus des leaders ou des cadres peut-être, des joueurs référencés en Super League pour les entourer. est, comptablement parlant, le début de saison est magnifique. Dans le contenu, c'est pas mauvais du tout. Le match à balle a été très très bon défensivement. Dans l'animation offensive, c'était un petit peu moins bien, mais au final, ça débouche sur une victoire à l'arraché qui peut aussi être fondatrice pour une saison comme ça. Et on voit des gestes comme on le voit maintenant avec Butler, Oyedeji, qui font lever la foule aussi, qui créent aussi une certaine euphorie autour du club. Donc pour l'instant, sachant que Lausanne n'a pas pour moi un effectif au complet, en tout cas je l'espère, bah, tous les feux sont ouverts.
Deux buts d'avance pour IB qui aurait finalement même pu perdre le match. Qu'est-ce que tu as envie de garder de ce LS-là, précisément sur ce qu'on a vu hier?
L'orgueil. Je crois qu'on est mené à domicile contre Young Boys, qui pour moi est la meilleure équipe intrinsèquement du championnat, avec des joueurs de qualité à tous les postes. Beaucoup de jeunes, une équipe très jeune aussi du côté lausannois. Ce n'est pas évident de revenir au score. Et finalement, bah, savoir faire le dos rond, un petit peu de réussite aussi pour ne pas encaisser le troisième et faire mal quand il faut. Donc, faut vraiment tirer notre chapeau à ces jeunes Lausannois-là parce que pas évident de revenir au score comme ça.
Ça réagit beaucoup, évidemment, sur le chat parce qu'on a parlé de Karim Sow, d'un éventuel départ. On n'a pas dit qu'il partait. On a dit qu'il y avait des éventualités de départ. Ouais. Mais bon, ça fait partie du mercato. On est en période de mercato. Ça se termine d'ailleurs le 8 septembre. Donc, pour le moment, Karim Sow, il est là. Il est bel et bien là. Il a répondu, d'ailleurs, hier soir à l'interview. Il nous a montré sa balafre sur la cuisse. LSIB, c'est aussi le retour de Kalisen en Super League. Mm-hmm. Il est parti il y a moins d'un an,
ouais.
À Middlesbrough. Il revient, il signe 4 ans à IB. Est-ce que c'est un retour qui te surprend?
Oui, un petit peu quand même. Parce que alors, même si la première saison en Championship n'a pas été à la hauteur des attentes, je pense que quand on va en Championship, on sait ce qui nous attend. Championnat ultra physique, plus de 40 matchs dans la saison. C'est vraiment costaud. C'est vraiment difficile de s'y imposer. Mais sachant qu'il avait signé un contrat à longue durée, je m'attendais à ce qu'il fasse, qu'il se donne une deuxième chance. Je ne sais pas exactement quelles ont été les discussions avec son club anglais durant ce mercato-là. Par contre, IB, de pouvoir amener de la concurrence à SND devant alors que tout roule pour eux, et de rapatrier un joueur qui a fait ses preuves en Super League, pour moi, très très gros coup. Et ça montre encore une fois que IB est au-dessus de la mêlée, même en ayant eu une saison catastrophique la saison passée.
Ouais, Kalisen qui arrive, qui a toujours été alors, autant à Getse qu'à Lausanne, je trouve meilleur avec un deuxième attaquant autour de lui.
C'est vrai, t'as raison, en fait, j'ai parlé de concurrence, mais peut-être qu'ils vont jouer ensemble. Hein.
Ouais. Moi j'imagine, Jerry Sohané, 4-4-2, deux mecs devant.
Et on décale Alvin Sanchez à droite, c'est possible.
Il profile un peu la Mecha Kelia qui tourne autour de l'attaquant et qui prend la profondeur. Il aime bien ça, Sewane.
Ouais, exactement. Tu parles d'Alvin Sanchez, ça aussi, hein, ça pourrait être éventuellement un joueur qui pourrait être sur le départ. Moi, je me dis, dans cet IB-là, qui doit renaître un peu, ça peut être la bonne adresse pour rester une saison supplémentaire. Je le trouve incroyable sur ce retour, pas convoqué à la Coupe du Monde. J'ai l'impression qu'il répond. Il n'a jamais parlé de cette non-convocation pour la Coupe du Monde, mais sur le terrain, il répond tous les week-ends.
Attitude parfaite, très classe. Je pense qu'il n'a pas fait de vague en étant pas convoqué. Il est très bien revenu après sa blessure. Sa non-nomination, elle peut se justifier. On aurait pu le prendre aussi pour amener un petit peu de créativité dans ce groupe-là. Au final, peu importe, il répond sur le terrain. Il réalise un super début de saison, que ça soit lorsqu'il est faux pied en ailier droit ou dans l'axe aussi. On a beaucoup parlé de l'association avec Castriot-Imeri aussi. Alors, tout va bien.
On nous demande précisément si on a des nouvelles de Castriot-Imeri. Non, on n'en a pas. Le club devrait confirmer bientôt. Beyat Lekweri aussi est annoncé blessé. Examen ce lundi pour le joueur du Lausanne Sport. Et puis, Quentin, je ne veux pas t'ignorer, mais on a un petit précédent avec Jérémy parce qu'on a une fois parlé de Flo Mollet. Puis on nous dit ici, voilà, Mollet qui confirme. Et ça, il faut le dire, deux buts en deux matchs. Deux buts, enfin des buts importants qui comptent dans les matchs. Et ça, c'était important pour lui, je crois.
Ouais, vraiment, important pour lui. Important pour son équipe surtout aussi, pour ses fans. Je pense que là, il est réellement arrivé. Il a eu une période d'adaptation compliquée où il était utilisé sur des bouts de match sans être forcément très incisif offensivement. Là, je crois que c'est quasiment l'homme du début de saison avec Bamendez qui est exceptionnel aussi dans son registre de contre-attaquant. Non, vraiment chapeau à Florent Mollet on n'a pas besoin de reparler de son coup de canon qui était exceptionnel à balle, mais là encore décisif, c'est très bien pour lui.
Deux fois MVP du Lausanne Sport sur les deux dernières rencontres. Tu as parlé de Bamendez, mais on a pu s'entretenir un moment avec lui après le match de samedi. On a commencé par évoquer la toute dernière action qui aurait pu permettre à Lausanne de gagner. Vous allez voir, il est aussi frais à l'interview que sur le terrain.
Dès que je l'ai vu arriver, Benito, je crois, Je vois qu'il y a de l'espace, je me dis je pousse. Il y a Zexiger, c'est ça, qui arrive aussi. Et je me dis, c'est un peu des anciens, je vais profiter sur ma fourbe et aller à toute pleine vitesse et c'est passé. Et je la voyais au fond, mais voilà, malheureusement, le gardien l'arrête.
Je vous vois presque commencer à célébrer.
Ouais, j'allais célébrer vers les supporters. Moi, j'étais déjà loin et quand je vois que ça rentre pas, un peu déçu, mais assez content quand même de la fin de match et plaisant.
Bon, on respecte quand même les anciens, mais cette fougue que vous avez, ce dynamisme et tout ça, c'est important.
Oui, c'est important. Je sais que c'est un plus. Du coup, j'en profite vraiment. Je crois que j'ai un style de jeu que pas beaucoup de joueurs ont actuellement et j'essaie de profiter dessus pour apporter ce que je peux apporter. Et voilà.
Et les gens aiment le spectacle. Les gens viennent au stade pour se divertir et vous êtes le genre de joueur qui divertit le public.
Ouais, on me dit souvent que j'ai un style de jeu un peu de rue. Ça se voit que j'ai pas fait toute ma formation ici. Et ça fait partie de mon style de jeu et j'essaie de l'apporter comme je peux. Même si j'ai beaucoup à progresser encore, mais j'espère apporter ce que je peux et continuer à évoluer avec mes qualités.
On fait très attention en vous posant cette question-là, mais autour de la Tuilière, tout le monde dit « Mais c'est le nouvel Alvin Sanchez, c'est Vini, on a retrouvé Vini, notre Vini, etc. » Ça vous fait quoi?
Ça fait assez plaisir parce que Alvin, je connais un peu personnellement. C'est un très bon joueur et ça fait plaisir d'être comparé au grand, pour moi, de la Super League. C'est un grand de la Super League et c'est plaisant. Après, je ne suis pas Alvin Sanchez, c'est Ibrahim Mendes et il ne faut pas que je l'oublie et que je reste moi-même.
Ibrahim Mendes qui a signé son premier contrat professionnel. Vous l'avez annoncé aujourd'hui, 2029, formidable. Ça fait quoi?
Franchement, c'est un plaisir énorme parce que je ne sais pas si les gens connaissent mon parcours, mais à 3 ans, j'étais encore au football amateur. Et tout ce qui m'arrive ces derniers temps, ça va très vite. Je ne me rends pas forcément compte. Et j'essaie de prendre ce que je peux prendre et assez content, vraiment content. Et j'espère continuer à aller de l'avant et progresser pour aller le plus loin possible.
Vous vous réveillez des fois le matin, vous pensez, vous demandez si tout ça est vrai ou vous êtes quand même dans cette réalité?
Je suis dans la réalité, mais c'est vrai que des fois avec mes proches, je leur dis que je ne me rends pas forcément compte et eux-mêmes aussi, ils ne se rendent pas forcément compte. Et en vrai, c'est assez plaisant et après, il faut rester les pieds sur terre et continuer à bosser. Mais c'est vrai que c'est assez kiffant quand même.
Il reste 5 minutes, c'est vos 5 minutes, place au 12e homme. Vous nous envoyez toutes vos questions, vous mettez un petit 12, 2 points et vous posez votre question. N'importe quelle thématique, on y répond à partir de maintenant. Ça fait rire Jérémy.
Ça peut aller dans tous les sens.
C'est toi qui as proposé ça en fin de saison dernière avec les.
Faisons-leur de la place à nous.
C'est
à
génial,
nous
il faut. Mendes, joueur hyper spontané, joueur qui est frais. Moi, j'aime bien cette fraîcheur-là.
Ouais, en tant que défenseur, c'est les joueurs qu'on n'aime pas trop affronter parce qu'ils peuvent. Ils sont très créatifs et il va très vite. En plus, Seziger, c'est un joueur qui est quand même, c'est un folon. Il va très vite, Seziger. Donc, quand je l'ai vu pousser le ballon, je me suis dit, ah purée, ça va quand même vite. Donc, quand je vais l'affronter, je vais essayer de prendre peut-être quelques mètres d'avance pour ne pas lui donner trop d'espace. Mais c'est clair, c'est des joueurs qu'il faut. Et je pense que les téléspectateurs aiment voir ce genre de joueurs tous les week-ends.
On nous dit, à chaque fois que je vois Alvin jouer, je suis encore plus énervé contre Yakin. Est-ce que ça te fait la même chose?
Moi, je suis pas énervé contre Yakin après la Coupe du Monde qu'on a vécue. Je pense que il est très critiqué, beaucoup trop critiqué à mon goût. Encore une fois, on a vibré comme jamais dans le pays après cette Coupe du Monde. Il s'en est fallu de très très peu pour qu'on passe un échelon supplémentaire. Il est toujours critiqué avant, après. Je comprends pas toujours les raisons. Elles sont pas toujours légitimes pour moi. Il a choisi son groupe. Ce groupe a donné satisfaction. On aurait pu imaginer Alvin. Est-ce qu'il aurait eu du temps de jouer ou pas? Je ne sais pas. Mais Alvin, de toute façon, le futur lui appartient.
Question de Patrick Marguera. Est-ce que le LS sera dans le top 6 à la fin de la saison?
Pour moi, alors il y a des équipes qui se détachent clairement. Moi, je pense que le LS va être à la lutte pour le top 6 jusqu'au bout. Et s'il y sera, ça sera peut-être 6e. Plus haut actuellement, vu l'effectif, on est quoi, le 9 août, hein?
Ouais.
Je vois 9 août, je dirais 6e. Et selon les recrues peut-être du fin de mercato, peut-être un peu mieux.
C'est vrai qu'on discutait, on se disait que le classement d'aujourd'hui pourrait à peu près être le classement.
C'est vrai que alors peut-être pas dans les places, mais dans les top 6 et top 7 à 12.
Ah ouais, parce que ça va être en dessous.
Je suis pas d'accord.
Vous
êtes à ça, exactement. Pensez-vous qu'Amdouni va/doit rester à Burnley, Quentin?
Ben, c'est une question compliquée. Il a été blessé longtemps, il n'a pas beaucoup joué. Après, point de vue qualité, si tu regardes la qualité du joueur, il ne doit pas jouer en championship, il doit jouer dans un top 5 européen, parce que c'est un joueur créatif, magique. Mais après, des fois, il y a ce que tu peux et ce que tu veux. Et ouais, je pense que le plus important pour lui, c'est de revenir et d'avoir du temps de jeu.
Il a joué une demi-heure hier en match amical, il a marqué son péno, il l'a partagé sur les réseaux, en Coupe de la Ligue, pardon. D'ailleurs, je remercie Johan qui est dans mon oreillette. Ça me fait penser à ce péno qu'il a marqué contre la Colombie. J'avais l'impression qu'il a... avec tout le respect que j'ai pour Stade Lozanouchi, quoi, c'est... À la Pontaise.
J'allais même dire à la Fontenette, moi. À la Fontenette, à Carouge.
Tout ce que tu veux. Mais il a un sang-froid qui m'impressionne.
Ouais, c'est exceptionnel. Il se pose pas de questions. Et lui aussi, il a vécu le football amateur et il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et un pénalty à la Coupe du Monde pour lui, la pression, elle glisse sur lui. Il ne la sent absolument pas. Et il a fait preuve de sang-froid de façon exceptionnelle.
Quentin, les trois équipes romandes en championship round pour toi?
Si on sait cohérent ce qu'ils font, Lausanne, il y a encore quelques interrogations. Et puis Servette, c'est clair qu'on doit être en haut au vu de la qualité de l'effectif et du jeu qu'on propose. Donc je dirais Sion et Servette, oui. Et pour Lausanne, il y a encore une petite interrogation sur ce qu'ils peuvent faire durant la saison. Après, peut-être je me trompe. Hein.
Non, pour moi, il n'y a pas la place pour les trois. Parce que si on fait par déduction, moi, je vois IB et Lugano actuellement au-dessus. Bâle, je les vois dedans. Saint-Gall, dans la continuité de la saison passée, je les vois dedans aussi. Sion, pour moi, actuellement, est la meilleure équipe romande. Ça fait déjà 5 places. Et il reste une 6e place à se disputer pour Servette et Lausanne.
Ce serait beau hein, qu'on arrive dans les dernières journées avant la phase régulière et puis qu'on aille...
Oui, alors ça serait magnifique, mais on se projette très loin et qu'on ne revienne pas sur ces extraits dans 10 mois. Hein, parce que c'est le jeu de se mouiller aussi.
Bien entendu. J'avais une question sur Lugano, c'est ma question du coup, je participe au 12e homme. Pour moi, Lugano, c'est juste en dessous d'IB. Je trouve Lugano cohérent. Je pense que ce nouveau stade est une arme supplémentaire. C'est un petit stade. Les gens, pour l'instant, répondent présents. Ils sont là. Et j'écoute volontiers ton avis au sujet de cette équipe-là, qui est très cohérente.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis il y a aussi, tu as parlé du mot stabilité aussi avant avec Quentin. Et là aussi, cette stabilité avec le savoir-faire de Mattia Crocitorti, qui pour moi, depuis des années, est un des meilleurs entraîneurs de Super League, avec des joueurs qui sont aussi des top joueurs pour leur poste en Super League. On a beau critiquer beaucoup Stephen en Romandie, pour moi, c'est un super joueur, même à 35 ans. Anto Gergic, on en parlait avec Quentin avant, en regardant le match, métronome, qualité technique hors norme pour la Super League. Et il y a des joueurs qui commencent à donner vraiment satisfaction, comme Kevin Behrens, etc. Donc, très, très fort. Et si on enlève un petit peu les gros de notre championnat que sont IB et Bâle sur les 5 dernières années, Lugano, pour moi, avait de quoi chercher un titre. C'est peut-être l'équipe, avec Servette aussi, qui aurait pu le plus titiller les deux gros pour les titres ces dernières années. Et pourquoi pas cette année?
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi pas cette année? Le générique est déjà là. Merci infiniment d'être passé nous voir. Quentin, bonne chance pour le match de Coupe. Merci. À Bavois, je crois.
C'est juste.
Contre mon petit frère.
Contre le frangin.
Il sera sur le banc. Hein, je veux pas...
On lui met un petit coup de pression au frangin. Merci infiniment. Tu reviens quand tu veux. Merci au Servette FC de nous avoir prêté, Quentin, pendant cette heure. Très, très belle semaine à vous. On se voit, pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois, avec, on l'espère, un joueur du FC Sion. On ne vous en dit pas plus. À bientôt. Ciao.